Madame, monsieur, bonsoir. Veuillez nous excuser de ces quelques minutes de retard pour cette dernière édition du Monde aujourd'hui, du vendredi 9 juin 2017, de 19h30, au sommaire. Les Nations Unies qui accusent Kinshasa de traîner les pieds et demandent la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les violences dans le Kasaï. Les casques bleus déployés au Mali encore ciblés par une attaque. 3 soldats de la paix guinéens tués à Kidal. Le président américain Donald Trump qui répond à l'ancien directeur du FBI qui l'accuse d'avoir demandé la fin de l'enquête sur son ancien directeur national de la sécurité. Et en Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May promet de mener à bien la sortie du pays de l'Union européenne après le score inattendu des conservateurs aux législatives d'hier. Au sommaire de ce journal également, les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout de suite, le développement. Le Haut Conseil aux droits de l'homme de l'ONU a accusé Kinshasa ce vendredi de ne pas enquêter sérieusement sur les violences au Kasaï et a exigé une enquête internationale. Les détails avec Nathalie Barche. Apparemment, quelques petits soucis. Voilà, donc nous allons essayer d'y revenir. Mais en attendant, les casques bleus tchadiens qui ont servi au Mali dénoncent le non-paiement de leur salaire et de leurs primes. Leur délégué annonce une opération brûler le béret bleu de l'ONU au nom des deux contingents de quelques 1275 hommes chacun ayant servi au sein de la mission des Nations Unies au Mali entre 2014 et 2016. Et selon le capitaine Maxime Altora, leur porte-parole, ces casques bleus n'ont perçu ni leur salaire mensuel de 1037 $, ni leur prime de risque, encore moins leur prime de chaleur. Avec 1390 hommes, le contingent tchadien est le troisième plus important de la MINUSMA après le Bangladesh et le Burkina Faso. Le chef de la MINUSMA est également de nationalité tchadienne. Les ministres de l'agriculture de la zone UEMOA tirent la sonnette d'alarme. Réunis à Niamey, au Niger, ils indiquent que quelque 3 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire immédiate dans 8 États d'Afrique de l'Ouest. Les ministres se sont également préoccupés de la prévalence de la malnutrition aiguë globale des enfants qui demeure critique dans le nord du Mali et le sud-est du Niger, en proie à l'insécurité entretenue par des groupes djihadistes, souligne le texte. Au Ghana, le soldat tué par une foule qu'il avait confondu avec un voleur a reçu ce vendredi des obsèques nationales à la résidence présidentielle d'Accra devant une foule émue et inquiète de cette menace qui est devenue la justice populaire. Que la mort du major Mahama puisse signer la mort de l'impunité dans notre nation, a indiqué le vice-président Mahamadou Bawuima, le lynchage du militaire de 29 ans le mois dernier, alors qu'il faisait son jogging matinal, avait provoqué une indignation à travers le pays. Au Soudan, les rebelles ont revendiqué aujourd'hui une embuscade contre un convoi qui a fait au moins 15 morts selon les autorités. Plus de 40 victimes, dont des civils, selon les rebelles, selon l'armée de libération du peuple soudanais en opposition. Cette embuscade contre ce convoi civil escorté par des militaires est une réponse aux attaques constantes menées contre leur base. La SPLA-IO dit regretter la perte des vies de civils, accusant le gouvernement de les utiliser comme couverture. En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, accusé de trahison et incarcéré depuis près de 2 mois, a été transféré de sa prison de Lusaka vers un centre de détention de haute sécurité. C'est ce qu'on apprend de sa page officielle Facebook. Hakainde Hichilema, 55 ans, avait été arrêté début avril et inculpé de trahison pour avoir entravé le déplacement du convoi du chef de l'État Edgar Lungu. Ok, donc aux États-Unis, Donald Trump contre-attaque et remet en cause l'intégrité de James Comey suite à l'audition hier de l'ancien directeur du FBI devant la commission du renseignement du Sénat. Si nous avons Dilly Dicoro, on peut l'écouter.
Le président américain Donald Trump accuse l'ancien directeur du FBI, James Comey, dans un tweet partagé ce matin, d'avoir fait fuiter des documents. Malgré tant de faux témoignages et de mensonges, nous découvrons que Comey organise des fuites, a-t-il écrit. Cette première réaction du chef de l'exécutif américain à l'audition de James Comey donne un aperçu de la stratégie choisie par la Maison-Blanche pour contenir le scandale des révélations de l'ancien directeur du FBI. Révélations détaillant les pressions qu'aurait exercées le président américain pour influer sur l'enquête portant sur les interférences russes. La ligne directrice est claire, ne tenir compte que de certaines parties du témoignage de M. Comey et dénoncer les accusations les plus accablantes. Ainsi, les défenseurs de la Maison-Blanche retiennent en premier lieu l'admission par Comey d'avoir fait fuiter à la presse, via un ami, les notes sur ses rencontres avec Donald Trump. L'avocat engagé par le président pour gérer la crise, Mark Kassovitz, a insinué que Comey pourrait être poursuivi pour ses fuites non autorisées. Et une source a indiqué qu'une plainte pourrait être déposée dès la semaine prochaine.
La première ministre britannique Theresa May a reconduit ses principaux ministres en annonçant la formation de son gouvernement après un cinglant désaveu lors des législatives où son parti conservateur a perdu sa majorité absolue au Parlement. Les détails avec Tatiana Mosso.
C'est avec une très courte majorité que Theresa May, après ses législatives anticipées, ira négocier la sortie de l'Union européenne avec les 27 à partir du 19 juin. Les conservateurs sont en tête du scrutin mais ont perdu une douzaine de sièges, tandis que l'opposition travailliste en a gagné une trentaine selon ses résultats quasi définitifs. Le taux de participation, près de 68%, est le plus élevé pour des législatives au Royaume-Uni depuis 1997, même s'il est inférieur à celui du référendum sur la sortie de l'Union européenne de juin 2016. Le parti europhobe UKIP s'effondre, ayant perdu son unique siège. Son leader, Paul Nuttall, a annoncé sa démission. Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes largement réélu dans sa circonscription au nord de Londres, a immédiatement appelé Theresa May à la démission. La livre sterling a immédiatement chuté à l'annonce des projections, tant face à l'euro que face au dollar, et resté très affaibli vendredi. Le commissaire européen français Pierre Moscovici a jugé que Madame May avait perdu son pari, son homologue allemand Gunther Oettinger, considérant pour sa part que Londres était désormais un partenaire faible pour négocier la sortie de l'UE.
On passe tout de suite à la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le géant pétrolier Shell a repris ses activités sur le terminal de Fort Cadus au Nigeria après plusieurs mois de fermeture dû à des attaques répétées par des groupes armés dont les Vengeurs du Delta du Niger. Ces rebelles réclament une meilleure redistribution des richesses du pétrole. Des négociations entre eux et le gouvernement apaisent pour l'instant la situation dans la région du Delta. L'Afrique du Sud a interrompu ses importations de poulet en provenance du Zimbabwe après une récente épidémie de grippe aviaire qui a frappé un élevage zimbabwéen. Les producteurs sud-africains évaluent à 140 millions le nombre de leurs poulets en danger si le virus venait à se propager sur leur territoire. Le Mozambique et le Botswana voisins ont également décrété un embargo sur le poulet zimbabwéen. En Côte d'Ivoire, lancement par la Chambre de commerce et d'industrie de la semaine du Kroubi, prévue du 21 au 25 juin dans la ville de Bondoukou à Zanzan. Objectif, faire découvrir les opportunités économiques de la région aux entreprises régionales et internationales. 10 000 visiteurs sont attendus, dont des délégations des États-Unis, du Japon, Soudan, de la Russie, France et Tunisie.
Nicolas Pinault, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre cette page de sport par la route vers la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui commence ce vendredi.
La première journée qui débute ce soir par un Libye-Seychelles et Soudan-Madagascar et demain deux gros chocs en perspective. Burkina Faso, Angola, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc et la République démocratique du Congo qui accueille son voisin de Brazzaville à Kinshasa, les Diables Rouges. Le point sur cette rencontre avec Thierry Kambundi de notre station partenaire à Kinshasa. Top Congo FM.
Revenus de leur stage du Maroc dans la nuit du jeudi 8 juin 2017, les léopards de la RDC ont repris du service à Kinshasa dès jeudi soir en prévision du match de ce samedi face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville. L'objectif pour nous reste la victoire afin d'entamer dans les meilleures conditions les éliminatoires de cette CAN 2019, a dit Florent Ibengue, le sélectionneur principal des Congolais de Kinshasa. Leurs adversaires arrivent ce vendredi dans la capitale de la RDC pour ce derby du fleuve Congo. Sébastien Minier, le tout nouveau sélectionneur des Diables, voudra venger son mentor Claude Leroy, car lors de la dernière confrontation entre les deux sélections nationales, les Congolais de Kinshasa l'avaient emporté 4-2 après avoir été menés 2-0. C'était en quart de finale de la CAN 2015. À l'époque, il était l'adjoint de Claude Leroy. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et dans la zone Europe?
Oui, à suivre ce soir, un choc dans le groupe A à Stockholm, Suède-France, le Portugal en déplacement en Lettonie, Pays-Bas-Luxembourg et la Belgique qui ira en Estonie.
Éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018 dans la zone Amérique du Nord et Centrale.
Les Américains retrouvent le sourire après une victoire la nuit dernière 2-0 contre Trinidad et Tobago, un résultat qui permet aux États-Unis de se relancer et d'occuper la troisième place après la victoire 3-0 du Mexique contre le Honduras. Le choc, ce sera dimanche au stade Azteca de Mexico, entre Mexicains justement et les Américains.
Victoire de prestige en amical de l'Argentine.
L'Argentine du nouveau sélectionneur Sampaoli a battu le Brésil 1-0 à Melbourne. Face à des Brésiliens qui avaient laissé plusieurs cadres au repos, comme Neymar, les Argentins dominateurs en première période l'ont emporté sur un but de Mercado juste avant la mi-temps.
Et on parle des transferts à présent.
Le FC Metz a ouvert son mercato estival en recrutant l'attaquant sénégalais Ibrahim Agnan, 18 ans, international des moins de 20 ans. À Metz, qui a obtenu son maintien dans l'élite française à 3 journées de la fin, il retrouvera Ismaïla Assar, lui aussi passé par Génération Foot, une académie que soutient le club lorrain depuis une décennie.
Pour terminer, la NBA, le championnat de basket nord-américain, peut être le titre cette nuit pour Golden State.
Et oui, c'est ce soir, Golden State qui mène 3-0 face à Cleveland. Le dernier match peut être ce soir, puisque Golden State n'a besoin que d'une seule victoire pour empocher son deuxième titre de champion NBA en 3 ans. LeBron James et ses coéquipiers sont en danger ce soir à domicile pour ce 4e match face à des Warriors toujours invaincus depuis le début des playoffs. Les Warriors ont signé leur 15e victoire consécutive mercredi en améliorant leur propre record NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le CICR appelle à la libération sans condition de 2 membres de son personnel enlevés après une attaque de leur convoi dans l'est de la République démocratique du Congo par des hommes armés non identifiés. Solange Nyamulisa a joint Aurélie Lachan, chargée des relations publiques et porte-parole du CICR pour l'Afrique.
Nous sommes en contact avec les ravisseurs. Nous avons eu des communications avec eux pour nous assurer qu'ils sont bien traités. Et nous appelons leur libération immédiate, qu'ils soient libérés sains et saufs, que les ravisseurs facilitent leur retour.
Est-ce que vous connaissez les circonstances de leur enlèvement ?
L'événement a eu lieu mercredi matin, dans la matinée. Nos équipes étaient en train d'effectuer des distributions de vivres et d'articles ménagers. Les équipes fournissent également un appui à l'hôpital de la zone. Elles étaient en route et elles ont été interceptées. Et 2 de nos collaborateurs ont été enlevés.
Vous avez décidé d'arrêter les activités dans le Nord Kivu. Quand est-ce que vous comptez reprendre tout justement les activités ?
Alors, nous espérons une résolution rapide de cette situation. Nous déplorons cet enlèvement et nous déplorons aussi le fait que ce sont les populations qui vont pâtir de cette situation, des populations que nous étions en train d'assister. Pour l'instant, nous avons interrompu toutes les activités dans cette zone. Je rappelle que 5000 familles qui avaient été affectées par des conflits et les personnes qui les accueillaient étaient en train d'être assistées par le CICR. Nous avons dû suspendre ces activités. Cette situation pourrait affecter de manière durable les populations qui sont dans cette zone.
Quelle est la situation situation humanitaire pour le moment au Nord Kivu?
Alors, de manière générale, la situation humanitaire est très difficile pour les populations qui ont été affectées par des années de conflit, qui sont affectées par des déplacements à répétition. Le CICR est présent dans cette zone depuis longtemps. Nous faisons des assistances en vivres, en articles ménagers, en soins de santé, en protection. C'est le genre d'activité qui met en péril l'action humanitaire, qui est très très importante pour les populations qui sont dans le besoin dans cette zone. On espère vivement que nos collègues pourront être libérés le plus vite possible, c'est clair.
Aurélie Lachan, chargée des relations publiques et porte-parole du CICR pour l'Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, l'opposition politique et la société civile entendent faire barrage à la création d'une entité électorale contrôlée par le gouvernement. En lieu et place d'une relecture de certains points du code électoral burkinabé, le gouvernement propose un tout nouveau projet de code électoral et provoque un tollé dans le pays. De Ouagadougou, les explications de notre correspondant sur place, Issa Napon.
C'est un chef de file de l'opposition volontaire qui est monté au créneau ces dernières heures pour dénoncer le nouveau projet de loi électorale préparé sans y associer l'opposition politique ni la société civile. La conséquence la plus grave de ce projet concocté par le gouvernement est qu'elle consacre un saut en arrière et un véritable recul démocratique, s'offusque Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique burkinabé.
C'est vrai qu'on avait reçu un questionnaire au mois de décembre, mais on nous avait dit qu'une fois les réponses renvoyées, on organisait une grande rencontre de concertation. Ils n'ont pas fait ça, ils sont enfermés dans leur laboratoire et ils ont sorti un texte qui, du plus, pose un problème sur le plan du droit parce que nous sommes dans le cheminement de l'adoption d'une nouvelle constitution qui balise justement certains aspects du code électoral. Et d'ailleurs, le code lui-même fait maladroitement référence à cette constitution-là et emploie des concepts et des termes qui relève cette constitution. Par exemple, il parle de cour constitutionnelle, ce qui n'existe pas pour le moment dans notre ordonnancement juridique. Tout ça montre bien qu'il y a une intention qui est malsaine.
Imposer un nouveau code électoral non consensuel reviendrait à légitimer une réaction en bloc de l'opposition politique et susciter une mise en garde claire de la société civile, Assène Hervé Ouattara, leader des citoyens africains pour la Renaissance.
Si pour l'article 37, parce qu'à ma connaissance, Blaise Compaoré était élu démocratiquement aussi, ça n'a pas empêché les gens de sortir de faire partie. Nous disons qu'il faut faire très attention parce que c'est notre article 37 et cette fois c'est plus grave. S'il ne croit pas, il peut continuer là-dessus. Et ce code électoral-là, nous prions Dieu qu'il continue dans la logique qu'ils veulent faire là. Ça nous faciliterait vraiment la tâche.
Plusieurs dangers entourent ce projet de loi en ce qu'il met en balance le vote de Burkinabé de l'étranger et ouvre la voie aux fraudes électorales, souligne l'opposant maître Gilbert Douala-Odraogo, président de la DFRDA.
Là, nous avons un projet de code électoral qui parle de l'autorité administrative indépendante, mais qui ne dénomme pas cette autorité administrative. Nous avons le deuxième point, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Nous constatons que dans ce projet, il est question de faire voter les Burkinabés à partir de 2020. À partir de 2020, ça peut être 2022, ça peut être 2050, ça peut être 3000 même. Troisième élément, nous avons eu cette expérience de l'utilisation des actes de naissance pour voter au Burkina Faso, même des livrets de fabrique, qui en son temps ont favorisé une grande fraude électorale. Et c'est à la suite de combats, de luttes et d'acquis que nous sommes revenus sur toutes ces questions et qu'il a été décidé donc qu'il fallait la carte d'identité biométrique. Et nous sommes surpris que cette nouvelle proposition réapparaisse et nous ne savons quel est le but qui est visé.
Le retour à une organisation des élections au Burkina Faso pilotée par le gouvernement consacrerait de fait la mort de la Commission électorale nationale indépendante et pourrait entacher la crédibilité et la fiabilité des élections à venir, s'inquiète l'opposition politique burkinabé. Une opposition politique qui s'est rangée derrière son chef de file, Zéphirin Diabré, qui entend, avec l'aide de l'ensemble des syndicats et de la société civile, faire barrage à cette volonté du gouvernement de faire passer ce nouveau projet de loi électorale. Issa Napon Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La première ministre britannique Theresa May a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement qui mènera à bien le Brexit. Bien que son parti conservateur ait perdu la majorité absolue à l'issue des législatives d'hier, le professeur Ian Beck, chercheur à l'Institut d'économie et de sciences politiques de Londres, a expliqué à Salwa Jafari les raisons de ce revers.
Bon, au début, Theresa May avait dit « Je reste au gouvernement jusqu'à 2020. Donc, je laisse passer les 5 ans normaux du Parlement. » Mais au mois d'avril, elle a constaté qu'il y avait une avancée très forte sur le Parti travailliste et elle a demandé des élections sous le prétexte qu'elle souhaitait avoir un mandat pour le Brexit. En fait, beaucoup de gens croient que c'était surtout parce qu'il y avait cette avancée sur les travaillistes et croient gagner sans difficulté. En faisant ça, elle a fait demi-tour. Et quand on fait demi-tour dans la politique britannique, ça joue pas. C'est pas acceptable normalement. Deuxième chose, pendant la campagne, elle a proposé des réformes des politiques de soins pour les personnes âgées. Et elle voulait surtout que les personnes âgées cotisent beaucoup plus pour payer ses services. Ça, c'est très mal passé avec les gens qui soutiennent normalement le Parti conservateur, donc les personnes âgées.
Theresa May va devoir gouverner sans une majorité au Parlement. Cela veut dire que les conservateurs ne pourront pas faire passer leur législation. Comment voyez-vous cette nouvelle dynamique?
Bon, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'avoir une sorte d'entente. C'est même pas une coalition avec les députés de l'Irlande du Nord, les soi-disant Democratic Unionists, qui représentent le groupe protestant en Irlande du Nord. C'est pas quelque chose qui risque d'être très stable parce que il suffit d'avoir 3 ou 4 membres de parti de Theresa May, les conservateurs, qui disent non, on n'accepte pas ça et on a du mal à faire passer les lois. Donc, j'estime que ça peut marcher pendant quelques semaines, mais moi-même quelques mois, mais d'ici la fin de l'année, ça risque de s'écraser.
Dernière question, Theresa May a promis ce matin qu'il n'y aura pas de retard dans les négociations avec l'Union européenne. Va-t-elle être capable de tenir sa promesse, à votre avis?
Elle va être capable de tenir sa promesse de négocier le Brexit, oui. Mais jusqu'à la fin de cette année, je crois que ce sont surtout des questions techniques qui vont avoir lieu. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des élections en Allemagne. Ces élections sont prévues au mois de septembre, mais normalement en Allemagne, on prend 2-3 mois après pour former des coalitions. Donc pour avoir un avis très solide des Allemands, il faut attendre la fin de l'année. Et pour moi, ça donne quand même un peu de marge de manœuvre aux Britanniques pour régler les difficultés intérieures.
C'était le professeur Ian Begg, joint à Londres.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les suites de l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat par le président Donald Trump, de nombreux États américains et grandes villes entendent bien respecter les termes de l'accord. C'est le cas en Californie, comme nous le dit Ekwe Ekiabadou.
Los Angeles, en Californie, est célèbre pour le grand nombre de véhicules sur ses routes. On pourrait n'y voir que la pollution. Malgré les apparences, cet État a les lois les plus dures des États-Unis en matière d'environnement. C'est ce que nous explique Clara Horowitz de l'Université de Californie.
En fait, nous avons un secteur économique qui prospère plus que dans tout autre État. Nous avons aussi des politiques climatiques ambitieuses en place.
La Californie entend bien poursuivre l'application de l'accord de Paris signé par l'administration Obama et dont l'objectif est de réduire d'ici à 2025 les émissions de gaz à effet de serre de 28% en dessous de leur niveau de 2005. Cet engagement reste une priorité d'après Michael Blomberg, ancien maire de New York.
Le gouvernement américain peut être sorti de l'accord, mais les Américains y restent engagés et nous atteindrons nos objectifs.
Même assurance du côté de Jerry Brown, gouverneur de la Californie, qui a signé avec le président chinois Xi Jinping un accord dans ce sens.
Il est très significatif qu'un gouverneur rencontre le président chinois pour parler du défi principal de notre temps, à savoir le changement climatique, et que nous nous engagions ensemble aux prises de décisions nécessaires sur le processus de transformation d'énergie.
Une prise de position qui ravit Shen Yat de l'Université de la Californie du Sud.
Après Hawaï, le prix de l'électricité est le plus élevé en Californie. Elle est en deuxième position également pour le prix de son essence.
L'État de Californie compte poursuivre des politiques environnementales fermes, car selon des experts, cela stimulerait également l'économie.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Avec ce titre Secret Love de Haïti avec en featuring Big O qu'on se quitte. C'était un choix de Lionel Gaïma qui a mis en onde cette édition. À la console, Cedric Franklin, Abdourahmane Dia à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Excellent week-end à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.